Bonjour à tous. Vous avez remarqué sur la table de la scène, j'ai disposé 4 petites bougies, une seule est allumée. C'est une tradition qui nous vient de l'Église catholique. Il y a de bonnes choses que nos frères et sœurs catholiques ont installées dans la vie de l'Église et dans la démarche de la foi. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche avant Noël. Donc, si je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs, puisque le dernier, ce sera le 24, et que le jour de Noël arrivera le lendemain. Et la tradition veut que l'on allume une bougie chaque dimanche qui nous rapproche de ce temps de Noël. Lorsque j'étais au concert de Celtic la semaine dernière, je me suis assis à côté, parce que vu mes soucis de santé, je ne peux pas rester debout. Donc c'est pour ça que c'est une bonne raison pour ne pas danser avec Corinne pendant le concert de Celtic. Et j'étais assis à côté d'une dame âgée. Et elle me salue, elle me dit « Bonjour, vous êtes de cette église ?» Je dis « Non, non, je viens d'une église du côté de Lorient. » Elle me dit « Ah, d'accord. » Je dis « Mais néanmoins, et vous ?» Alors elle me dit « Ben, moi, je suis catholique, et puis je connais bien cette église, parce qu'il y a un des frères qui fait des études, et j'y participe. » Et c'est vraiment quelque chose qui me fait un bien fou. Et elle me disait « Ben, donc on est frères et sœurs. » Je dis « Ah, mais oui. » Et puis, en parlant, elle me disait « En fait, ce qui est au centre de notre foi et qui fait de nous des frères et sœurs, c'est l'incarnation du Christ. » Et quand elle m'a dit ça, je dis, mais vous savez que il y a eu une trentaine de théologiens qui se sont réunis pendant des mois et des mois pour arriver à cette conclusion. Et vous, en 2 minutes, vous y êtes arrivés. Alors je dis, oui, effectivement, ce qui fait de nous des frères et des sœurs, c'est l'incarnation du Christ. Alors j'ai allumé cette bougie pour que nous puissions, je dirais, être aussi dans l'attente. En fait, pas l'attente de la fête de Noël qui va avoir lieu dans quelques semaines, mais d'être toujours dans l'attente de l'incarnation de Christ en nous. Comment Christ peut-il s'incarner toujours et davantage? Et j'ai le sentiment que finalement, ces bougies de l'Avent devraient toujours briller dans notre cœur, dans notre âme, comme la manifestation de notre attente à chacun d'entre nous. Je veux, Seigneur, que tu t'incarnes le plus possible en nous, en moi. Alors, il y a 2 jours, on est allé avec Jean-Louis et Agnès visiter une dame de 88 ans qui ne peut pas venir parce qu'elle est fortement diminuée dans sa santé, mais on la visite en général séparément. Et puis Agnès m'a dit à un moment donné, ah, et si on y allait tous les trois, on ne lui dit rien, on amène un gâteau, c'était la veille de son anniversaire, on a un peu triché, et puis on est débarqués tous les trois et on a eu un moment pour lui fêter son 89e anniversaire. Et c'était un moment vraiment de grâce et de vie. Comme d'habitude, j'avais amené ma guitare. Elle ne me fait aucune remarque sur mes difficultés dans le rythme des chants. Donc j'apprécie. Je plaisante, Hervé. Mais j'amène ma guitare et puis on a les chants qu'elle a choisi pour ses obsèques. Et donc, ça fait 3 ans qu'on chante ces chants-là ensemble. Parce qu'un jour, on s'est dit, bon, on les a choisis, c'est bien, mais le jour où on les chantera, tu ne seras plus là. Elle a dit, oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. J'ai dit, bah, autant qu'on les chante ensemble, donc à chaque fois que je vais, on chante « Quel ami fidèle et tendre ». « J'aime l'éternel ». Puis « Jésus-Christ est Seigneur ». Et puis, on termine toujours par « Non, rien de rien, je ne regrette de rien » d'Edith Piaf. C'est dit ça, c'est presque une prière. Parce qu'elle a une vie étonnante. Elle est née au mois de novembre. 4 jours après, sa mère l'a déposée sur le parvis de l'église de Lunéville. Et elle a été abandonnée comme cela. Et pourtant, aujourd'hui, confiante en Dieu, elle dit « Non, rien de rien. Je ne regrette rien. » Alors après, j'ai l'habitude de faire une méditation. Et puis, Jean-Louis et Agnès m'ont autorisé à faire une méditation. Elle est outrée, Agnès. Et on a pu partager l'écriture sur les mages qui sont venus rendre visite à Jésus au moment de sa naissance. Alors, je vais vous lire ce texte, parce que je me suis dit, après tout, pourquoi pas le partager ensemble. La visite des mages à Bethléem. Au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, c'est le seul évangile synoptique qui mentionne cette visite. C'est assez particulier, pour le signaler, en sachant que c'est pas le premier évangile qui a été écrit, mais c'est le premier dans notre Bible. Et donc, il ouvre le Nouveau Testament après l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il commence par une généalogie, parce que Matthieu, dit-on, veut dire aux Juifs celui que nous attendons. Et on peut regarder cette lumière tremblotante sur la table, là. Celui que nous attendons, qui va venir, le Christ, le Messie, c'est le descendant promis du roi David qui est envoyé par Dieu. Et c'est pour ça que son évangile est construit en commençant par une généalogie de 17 versets, 17 versets qui sont, je dirais, la meilleure manière de décourager les lecteurs non-juifs. Parce que pour nous, commencer un livre par une généalogie, il n'y a rien de passionnant. Mais pour Matthieu, c'est une manière de dire celui que nous attendons, qui doit venir de la descendance de David, voilà qu'il est là. Et ensuite, juste après cela, il y a juste un verset au chapitre 2 qui dit « Jésus était né à Bethléem en Judée ». C'est tout le récit de la naissance de Christ. Il en parle avant la naissance, il parle après sa naissance, mais la naissance de Jésus, c'est juste ce verset-là. Mais quel verset ! Quelle incarnation ! Alors je vais vous lire cela, et puis je vais vous lire ça, et après je vous dis comment ça se poursuit. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée. » Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà le récit de cette visite particulière. Ce qui est dit par Matthieu comme un élément important lié à la naissance de Christ. Est-ce que cette lumière brille aujourd'hui encore? Pourquoi cette incarnation? Quel sens aujourd'hui pour nous et pour le monde? C'est une question qui est toujours d'actualité. Depuis plusieurs mois, j'ai sur ma table de chevet un livre qui doit être quelque part, par là. Je l'ai posé, je ne sais plus où. À côté de mon lit, j'ai une bibliothèque, au grand désespoir de ma femme. J'ai toujours des livres, j'ai des livres partout. Mais à côté de mon lit, j'ai une bibliothèque avec des livres et je veux dire que 60% ce sont des livres de poésie. Quelqu'un m'a offert un livre de poésie, je ne sais pas qui. Je me suis demandé si ce n'était pas Christine ou Michel, mais je ne pense pas. Et c'est une petite anthologie de la poésie alsacienne. Est-ce que ce serait Corinne? C'est possible, hein? C'est un tout petit recueil. J'ai une trentaine de livres de poésie, mais depuis plusieurs mois, je le lis parce que c'est de la poésie alsacienne et qu'une grande partie de ces poèmes sont des poèmes qui parlent de l'hiver, de la nature et de Noël. Et en préparant ce temps, je me suis dit, tiens, est-ce que Noël a toujours du sens aujourd'hui? Pourquoi? Pour qui? Et je vais vous proposer une lecture d'un poème qui a été écrit par Jean-Paul Gunset dans cette anthologie de la poésie alsacienne. Et on va faire une lecture à deux voix. Parce que je suis très mauvais en alsacien, mais il y a parmi nous quelqu'un qui le possède parfaitement. Alors on va vous lire, et soyez juste dans l'écoute de ce poème dont le titre est « Le sais-tu ?» Est-ce que ça marche ?
Weißt du's?
Voilà.
Für was? Für wen?
Pourquoi? Pour qui?
Weißt du's?
Le sais-tu?
Es heißt für Friede und für Glück.
On dit pour la paix, pour le bonheur.
Und kurz drauf heißt's noch einmal viel Glück. Viel Friede.
Et peu après, on redit encore beaucoup de paix, beaucoup de bonheur.
Und so heißt schon 2000 Jahre.
Et l'on dit cela depuis 2000 ans.
2000 Jahre Friede. 2000 Jahre Glück. Und 2000 Mal Krieg. Und 2000 Mal Elend.
2000 ans de paix. 2000 ans de bonheur et 2000 ans de guerre et 2000 ans de misère.
Und doch wissen wir's nicht. Ein Sterne hat's uns gezeigt und Sterne liegen doch nicht.
Pourtant, nous le savons bien, une étoile nous l'a montré et les étoiles ne sauraient mentir.
Und noch etwas müssen wir wissen. Sterne sind doch ja so weit. 30 Jahre, 30 von Jahren weit.
Mais nous savons aussi que les étoiles sont loin, si loin de nous, des milliers d'années.
Heute in der Sterne, Bethlehem.
Loin ton étoile aussi, ô Bethléem. Merci, Michel. Il a beaucoup mieux dit que moi en alsacien. Hein, ça, je... Mais ça m'a fait plaisir de le lire, ce poème. Ce poème qui parle de cette étoile qui a brillé, de cette lumière qui est venue. Et, quelque part, la question de ce poète est une question pourquoi ? Pour qui ? Est-ce que tu le sais ? Et puis, à chaque fois, on parle... En pensant à cette étoile, de la paix, du bonheur. Et puis ça fait 2000 ans qu'on en parle. Et puis 2000 ans, plus de misère, de guerre et de violence. Et nos temps, aujourd'hui, sont marqués par cela. En quoi, aujourd'hui, la lumière de Noël, l'étoile de Bethléem, apporte une autre lumière, un autre message aux hommes d'aujourd'hui ? Et le poète termine en disant « La lumière des étoiles, c'est une lumière si lointaine, à des milliers d'années. » Et il termine par cette phrase « Ton étoile aussi, ô Bethléem. » Le poète est dans la tristesse de ce que même cette étoile-là ne semble pas avoir donné la lumière qu'on pouvait attendre. Alors nous avons lu un texte qui parle de mages qui viennent à Bethléem. Et j'ai envie de dire que ce texte-là est bien évidemment un texte de Noël qui est un peu prisonnier du folklore. Hein ? J'aime beaucoup reprendre les textes que l'on a enfermés dans des représentations folkloriques et festives. J'aime beaucoup reprendre le texte avec les bergers qui viennent la nuit de Noël parce que la réalité est tellement différente de ce qu'on en fait une scène bucolique avec les bergers qui descendent de leur pré, de leur champ, en chantant, etc. Alors que c'était les exclus de la société juive, ceux qui étaient mis de côté. Et c'est ceux-là que Dieu a choisi pour célébrer la naissance de son Fils. Quelqu'un me disait hier, un jeune homme me disait « je n'ai pas les qualités, je ne vaux pas, je n'ai rien, je ne suis pas comme l'autre, je n'ai pas en moi les richesses de l'autre. » Ouais. C'est un berger qui a vu en premier le Fils de Dieu, un exclu, quelqu'un qui était mis au banc de la société juive parce qu'il ne pouvait pas respecter les ablutions, les prières, tout ce qui était lié à la nourriture consacrée, etc. Alors je disais à ce jeune homme, mais tu es digne parce que Dieu s'est donné pour toi. Alors le texte des mages est de la même nature. Le récit de la visite des mages, c'est un peu un récit qui peut faire penser à des récits légendaires. Il y a eu dans la littérature mondiale, historique, des textes qui ont parlé de récits de ce type-là. On pense à Suétone qui a parlé de la venue de mages de Perse pour honorer l'empereur Néron. Ouais, on est sur un autre registre, mais des mages qui seraient venus en l'an 66 pour l'honorer. On pense à des textes juifs, notamment à une Haggadah, c'est-à-dire une Haggadah, c'est une sorte de conte qui cherche à illustrer la Torah. Et la Haggadah de Moïse dit qu'il y a, à un moment donné, Pharaon qui a été informé de la naissance de Moïse par un mage, etc. Voilà, ça fait partie de la littérature. Mais là, on est devant quelque chose qui n'est pas un conte. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que ça s'inscrit dans l'histoire des hommes, du temps du roi Hérode, Hérode le Grand. Et les mages, ce sont des êtres un peu particuliers. Alors, le mot « magos » est dérivé d'une caste sacerdotale de la religion perse. On le lit dans les récits de Hérodote. Et les mages étaient spécialistes en astrologie et astronomie. Parce que souvent, on dit « Ah, c'est un astrologue !» Ouais, c'est pas des gens bien. Et puis d'autres nous disent « Ah, mais non, c'est des astronomes !» En fait, ils étaient les deux, parce que l'astronomie et l'astrologie étaient étroitement liées à cette époque-là. Ils essayaient de découvrir le sens des choses, d'observer si les étoiles, le ciel, disaient des choses sur ce qui se passait sur Terre, mais aussi, ils étudiaient les constellations, les étoiles, etc. Donc, c'est à la fois ceux qui ont une connaissance supérieure, des astrologues, et puis aussi, on le voit dans Joseph, Flavius Joseph, qui est un des plus grands historiens de la période de l'époque de Jésus, et il en parle comme des hommes qui savaient aussi interpréter les rêves. Ça vous fait penser peut-être à à Joseph, hein, qui, dans la Genèse, savait interpréter les rêves. Mais dans les traditions de la Bible même, on voit des personnes qui, à la fois, sont dans des pratiques divinatoires, mais aussi qui essayent de comprendre, de découvrir peut-être la pensée de Dieu dans ce monde. Et ici, l'évangéliste, il est là pour dire, bien, ce sont des mages, et il parle en fait d'hommes qui sont des savants, aussi bien que des hommes ouverts aux choses de Dieu. Mais c'était des vrais savants. Alors, cette question de l'apparition de l'étoile, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de littérature, y compris rabbinique ou juive. Et on est dans un récit qui nous fait une présentation de mages qui viennent d'Orient. Vous rappelez quand je parlais de la visite de Jésus à la Samaritaine, on a dans l'Évangile un mouvement de Jésus qui part du nord d'Israël vers le sud, donc qui traverse la Samarie, puis qui remonte, puis qui redescend, qui va sur le côté, qui revient et qui remonte. Et on est parfois un peu, distrait, où on ne l'aperçoit pas, les mouvements qui se passent au niveau géographique. Ici, on a dans ce chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu un mouvement particulier, au moins de deux personnes importantes, ce sont les mages et Jésus. Les mages, ils viennent d'Orient, c'est-à-dire de l'Est, et ils vont jusqu'à Jérusalem. De Jérusalem, ils vont jusqu'à Bethléem, et de Bethléem, ils retournent en Orient par un autre chemin. Et cette notion, ils sont retournés par un autre chemin, on le lit simplement au fait que, divinement avertis, ils ont voulu éviter de se faire attraper par les services de sécurité d'Hérode. Mais pas seulement. Un autre chemin, ça a un sens beaucoup plus spirituel. Et puis, on a Jésus qui naît à Bethléem, qui est conduit au verset 13 du chapitre suivant, ou du chapitre 2, en Égypte, qui est ramené en terre d'Israël au verset 21, et qui s'installe, enfin, ses parents s'installent à Nazareth au chapitre 22, d'où ce verset qui dit « il sera appelé le Nazaréen ». Donc il y a un mouvement là aussi de Jésus. Et ces mouvements-là, ils ont du sens aussi au niveau spirituel. Et c'est important, quand on lit ce texte des mages, de voir les mouvements qui s'opèrent des personnages des uns et des autres. Alors, j'avais envie de lire ce récit en m'arrêtant sur les versets qui sont donnés. J'essaie de retrouver mon texte, parce que du coup, je ne l'ai pas imprimé. Mais dans l'évangile de Matthieu, le chapitre donc 2 et verset, les premiers versets, il est dit qu'il est présenté un état initial. Je disais, la naissance de Jésus pour Matthieu, c'est une phrase de 1, 2, 3, 4, 5 mots. Jésus était né à Bethléem. Ça semble être une présentation, il ne s'est pas fatigué pour la décrire, la naissance. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il est né. Et que ce verset-là, je dirais que c'est le pivot de l'histoire universelle pour ceux qui savent que Dieu s'est incarné. Jésus était né à Bethléem, en Judée, et qui s'inscrit dans l'histoire des hommes au temps du roi Hérode. Les lieux, les protagonistes, tout est concis, mais tout est présent. Jésus, Hérode, les mages, Bethléem, Jérusalem, l'Orient. Et la naissance de Jésus, c'est lapidaire, certes, mais c'est posé. Le centre est là. Et c'est à partir de ce commencement que tout se joue pour l'histoire des hommes, et j'ai envie de dire que tout se joue pour l'histoire de l'homme que je suis, ou de la femme que je suis. Tout se joue sur ce verset-là. On pourrait dire que la précision n'est pas indispensable dans une certaine mesure, et elle l'est aussi notamment au chapitre 1 du verset 18, quand il est dit « Voici comment arriva la naissance de Jésus ». C'est-à-dire que Matthieu il s'intéresse plus aux circonstances. Voici comment c'est arrivé. Comment le Saint-Esprit est intervenu. Comment Joseph a réagi. Et comment, finalement, tout a été posé afin que s'accomplisse l'Écriture. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce sont vraiment ces circonstances-là qui intéressent Matthieu. L'histoire du bœuf, de l'âne gris, de l'autel qui est complet, avec la pancarte sur la poignée de la porte, etc. C'est pas ça. Non, c'est quelles sont les circonstances. Et une fois que ces circonstances amènent la naissance de Christ, qu'est-ce qu'il se passe ? Au verset 2, il est dit que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » On est à ce moment-là, avec cette affirmation, Jésus est né. Et la première question qui apparaît dans l'évangile de Jean, de Matthieu, c'est « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et moi, ce « Où est ?», je ne peux pas le lire et lire cette question-là sans revenir à la Genèse et à la première question que Dieu a posée dans le jardin d'Éden quand l'homme s'est séparé de son Créateur. Le soir venu, après cette séparation et l'intervention du péché qui sépare l'homme de son Dieu, la question de Dieu, c'est « Où es-tu ? Où es-tu ?» Et quand Christ naît, la question que posent les mages, c'est « Où est le roi des Juifs ?» Et ce sont ces deux questions qui font écho et qui disent d'un côté, Dieu s'inquiète de savoir où est l'homme qui s'est séparé de lui, et l'homme séparé de lui pose cette question, où est celui qui peut rétablir cette relation avec mon Dieu, avec mon Créateur ? Les mages cherchent le roi des Juifs dont ils ont vu l'étoile en Té-Anatole, c'est-à-dire à l'Orient. Ça nous concerne. Ce chapitre-là, ce sont ceux qui viennent de l'Orient qui cherchent Christ. Ça marche aussi pour Ploué. Hein. Je le dis pour que tout le monde se sente concerné. Ça marche aussi pour le Finistère. Mais ils viennent de l'Orient. Ils sont venus et ils étaient en quête. L'étoile des Juifs apparaît à l'Orient du côté des païens pour les guider vers le Christ. C'est étonnant, cette dichotomie qu'il y a dans les deux premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Parce que d'un côté, il commence en disant « À vous les Juifs, vous expliquez qui est celui qui vient de naître. C'est le descendant de David, celui que nous attendons, nous les Juifs, depuis des centaines et des centaines d'années. » Et tout à coup, deuxième chapitre, c'est des païens qui viennent pour adorer celui qui est arrivé dans le monde pour sauver l'être humain. Les mages viennent comme des représentants du paganisme, des non-juifs, pour adorer le Christ. Et ça met en parallèle le fait qu'à Jérusalem, quand ils sont passés, après qu'ils aient posé cette question, ils viennent à Jérusalem. Et puis là, vous avez le roi Hérode, mais surtout, vous avez les sacrificateurs et les scribes qui savent où est né le Fils de Dieu. Pour eux, c'est une évidence. Ils savent intellectuellement. Mais ils restent là où ils sont. Les mages disent « Où est-il ? » Ils reconnaissent leur ignorance, mais ils veulent aller à sa rencontre. Savoir qui est Christ, savoir où il est né, où il va naître, ça n'a aucun intérêt si je ne vais pas à sa rencontre. Et c'est la différence entre les mages et les sacrificateurs, les scribes. Les mages reconnaissent par leur attitude que la révélation de Dieu, ils en sont les bénéficiaires. Et ils la veulent. Ils la veulent. On est allé avec Francine voir le marché de Noël qui a lieu dans le collège. Juste avant, elle avait contrôlé le marché de Noël de Kevin pour vérifier si ce qu'on lui avait dit était vrai, qu'il n'y avait que des objets fabriqués, etc., etc. Puis bon, elle a bien trouvé des stands où ceux qui étaient là n'avaient rien fabriqué, ils vendaient. Donc l'excuse qui nous a été donnée n'était pas tout à fait rigoureuse. On est allé voir l'équipe qui tenait le stand au Collège des Terres. Alors j'avoue que j'étais impressionné par l'étendue de ce marché de Noël. Je vous invite à y aller, y faire un tour, à la fois pour encourager l'équipe de l'Église qui propose de la littérature, des choses qui sont centrées sur la naissance de Christ, mais parce que c'est aussi un très très joli marché de Noël, vraiment vraiment vraiment, avec plein de choses, de l'artisanat, mais de très très jolies choses. 150 stands. J'avoue que j'étais un peu stupéfait de l'importance, et dans un cadre assez étonnant, naturel, avec un collège. Il y a plein de marchés de Noël et des gens qui vont parcourir des allées, des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de gens qui vont... On m'avait donné le montant des affaires du marché de Noël de Strasbourg. C'est un truc phénoménal. Ça se compte en centaines de millions d'euros. Je dis, ouais, ben, les impacts, les hôtels, les ceci, les cela. Oh, plein de gens savent ce que c'est Noël! Mais ils le savent comme les sacrificateurs et les scribes peuvent dire... Il doit naître à Bethléem. Allez-y. Nous, on reste là, on garde la maison. Ouais. Savoir, si ça ne nous met pas en mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas utile. Au verset 3 à 6, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla les sacrificateurs, les scribes, et il lui posa la question... où devait naître le Christ. Alors on peut se dire, tiens, Hérode est messianique. Il dit, dites-moi où doit naître le Christ. Non, il est pas dans l'attente du Messie. Il utilise un titre qui est le titre utilisé dans le judaïsme pour parler du Messie. Mais il n'est pas plus intéressé que ça, et on le verra par après, par la venue du Messie. Je dirais même que c'est quelque chose qui le dérange. Et c'est pour ça qu'il est dit, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Jérusalem est troublé parce que les mages disent, le fils, le roi des Juifs est né ces jours-ci. Ils sont troublés, et Hérode et tout Jérusalem. Et vous savez quoi? On est là dans la même situation que Zacharie, lorsqu'il est troublé par l'apparition de l'ange du Seigneur en Matthieu 14, 26, on voit qu'il y a cette notion de trouble. Les disciples sont troublés par l'apparition de Jésus marchant sur les eaux. Ils sont troublés par l'apparition du ressuscité. Et à chaque fois, c'est ce mot, ils sont troublés. Vous savez, ce qui trouble, c'est quand on est confronté à une révélation de Dieu. La révélation de Dieu, ça bouleverse quelque chose, ça trouble, ça met en déséquilibre l'être intérieur. Et là, de la même que Zacharie, les disciples, etc., Hérode et Jérusalem sont troublés parce qu'ils sont confrontés à une révélation de Dieu. Les propos des mages pour Hérode, c'est une révélation. Il la prend au sérieux. Il ira jusqu'à faire tuer tous les enfants qui ont entre quelques jours et 6 mois pour être sûr d'éliminer celui qui pourrait être l'usurpateur qui viendrait lui enlever son trône. Ouais. Il est troublé, et au lieu qu'il soit poussé à la crainte et à l'adoration, malgré ce qu'il dit, chez lui, c'est une opposition mortelle à celui qu'il découvre comme un concurrent. Ouais. Hérode, il est dans la même situation que Pharaon face à Moïse. Son attitude souligne un thème qu'on retrouve souvent dans les textes bibliques, c'est l'endurcissement du cœur. Pharaon aurait pu dire « Ah tiens, Dieu me parle ». Hérode aurait pu dire « Dieu est en train de faire quelque chose ». Mais pour l'un comme pour l'autre, ce qui est mis en avant, c'est la capacité d'endurcissement face à la révélation de Dieu. Et vous savez, nous sommes tous des pharaons et tous des Hérodes face aux révélations de Dieu. Quand il y a cette expression « tout Jérusalem », ça signifie que la ville partage cette même crainte, mais cette crainte qui dérange, la révélation de Dieu dérange. Est-ce que la révélation de Dieu dans nos vies, elle n'a pas parfois cet effet-là? Elle nous dérange. Et que comme Pharaon et comme Hérode, nous résistons, nous nous opposons, voire même nous pouvons nous endurcir. Enfin, moi, je le sais. J'ai une capacité d'endurcissement et de résistance étonnante. Si, je vous assure. Je peux résister de manière très longue. L'année dernière, au mois de décembre 2022, j'en témoignais au groupe de prière, je passais un moment avec des amis, et à un moment donné, c'était début décembre 2022, j'ai dit quelque chose à quelqu'un que je connais peu, mais qui était là. Et une fois que je l'ai eu dit, j'ai dit, mais c'est injuste ce que tu viens de dire pour cet homme, vis-à-vis de cet homme. C'est injuste, c'est pas seulement un manque de tact, c'est quelque chose qui est dans une forme de rejet. Et je l'ai réalisé tout de suite. La nuit qui a suivi et les nuits qui ont suivi, j'y ai pensé toutes les nuits. J'ai dit, ouais, là, j'ai pas été fin. J'ai même été un peu plus loin que ça. Et j'ai eu conscience que c'était du péché, c'était pas juste ce que j'avais fait. Et je me suis dit, bon, vous savez, moi j'ai une capacité de résistance, puis je suis pas tout à fait bête, donc je me suis dit, ouais, on se revoit dans 2 mois, donc je lui dirai un mot à ce sujet-là dans 2 mois. Et puis 2 mois après, on avait un rendez-vous. Ah, on peut pas venir. Je dis, oh, c'est pas grave, je le verrai dans 2 mois. 2 mois après, ah ben non, là on est coincé, on est de l'autre côté de la Bretagne. Bon, je dis, c'est pas grave, c'est les vacances, je le verrai à la rentrée. Puis comme ça. Et puis, on devait se voir début décembre. Et puis ça a pas joué, ou fin novembre. Et à 4 heures du matin, dans la semaine, là, j'ai... Je suis réveillé, puis j'étais là, je dis, mais... Et là, j'étais arrivé au bout de mon endurcissement. Et je dis, il faut que je demande pardon, il faut en tout cas que je dise. Et c'est ce que j'ai fait. Une année après. Il y en a qui sont plus rapides, là. Comment la révélation de Dieu peut être, à un moment donné, un facteur d'endurcissement, de résistance par rapport à ce que Dieu attend de nous. Et Dieu, je dis, ce qui m'a poussé, c'est que j'ai réalisé que je n'avais pas de temps. Le temps ne m'appartient pas. Le temps de ma vie, le temps que j'ai. Et je me suis dit, bon, Dieu, lui, il a l'éternité. Ça joue pour lui, hein. Est-ce que je suis comme Hérode et tout Jérusalem à résister à la révélation de Dieu, à la naissance de Christ en moi, ou est-ce que je suis dans une position de dire je joue la montre, je m'endurcis, tout en sachant que le passage, il passe, je dirais pas par Bethléem seulement, mais par la croix. C'est là qu'il m'attend. J'ai appelé la personne en question, qui était tout étonnée de mes propos, qui s'y attendait pas. Qu'est-ce que j'étais bien après? Et qu'est-ce que notre relation à lui et à moi était bien après? Alors ça parle de notre relation à Dieu, ça peut parler aussi en ce temps de Noël, à notre relation avec ceux qui nous entourent, notre famille, nos proches, nos amis. Est-ce que nous sommes dans l'endurcissement ou est-ce que nous sommes prêts aussi à faire des chemins, ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'Hérode rassemble les grands prêtres, il les rassemble pour connaître où est le Messie. Et il utilise bien le Christ. En fait, quand il est dit dans l'évangile de Matthieu « Où est le Christ ?», il utilise le mot hébreu « Mashiach », puisque c'était, il parlait araméen. Donc, où doit naître le Mashiach? Il est juste dans un registre de connaissances techniques. Dites-moi où. Et là, eux, ils vont sur le livre de Michée, ils disent, bah, ça nous a été dit, le prophète Michée, il y a quelques centaines d'années, nous a dit, ça sera à Bethléem. Ah, d'accord. Mais il ne fait pas, ni lui, ni les sacrificateurs, les religieux, au verset 5 et 6 de ce chapitre, ils ont tous les éléments pour aller adorer. Ils ont tous les éléments. Vous savez, il y a des fois où Dieu me donne tous les éléments et ce n'est pas pour autant que je me bouge. Ce n'est pas pour autant que je rentre dans sa pensée, dans sa volonté. Ça produit de la part des scribes, des religieux, des sacrificateurs, aucun déplacement vers Bethléem. Ils sont immobiles et ils sont enfermés dans leur savoir, un savoir purement théorique. Or, ce que Dieu nous appelle à vivre, ce n'est pas de savoir de manière théorique ce qu'il est, c'est de rentrer dans une vie de relation avec lui et que nous soyons capables de nous déplacer vers lui. La conversion, la métanoïa, c'est un demi-tour, c'est un chemin. C'est le fils prodigue qui dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Mais s'il n'y a pas son déplacement, il reste devant ses cochons qui mangent des caroubes. Et parfois, je vous assure, dans ma vie, j'ai passé du temps à rester devant mes cochons, à manger mes caroubes pour ne pas me lever et faire demi-tour. On a vécu des expériences comme ça, même avec Michel, je me rappelle au collège biblique, on avait eu un jugement sur un couple. On les avait jugés comme étant pas un jeune couple spirituel parce qu'ils avaient une manière d'être entre eux, etc. On les a sanctionnés, on dit, mais cet homme-là, cette femme-là n'ont pas prophétisé dans l'aréopage des élèves que nous sommes et qui étaient vraiment fidèles, beaux et... Le Seigneur m'a dit, au bout de... Ces gens-là, ils sont restés dans leur chambre pendant une semaine. Premier jour, moi, j'étais là, je dis, ah, ils ne sont pas là. Le Seigneur est en train de les travailler. C'est sûr. Au bout de deux jours, je dis, ouais, là, l'œuvre, il y avait vraiment du chemin à faire pour eux, donc c'est bien qu'on soit intervenu quand même. Au bout de trois, quatre jours, je dis, mais ils ne viennent même pas manger. Ouais, là, ils jeûnent et ils prient, certainement, pour trouver la pensée. Puis au bout de six jours, j'étais là, je dis, ouais, non, mais... Le Saint-Esprit dit, mais t'es sûr que c'est eux qui ont besoin de faire un chemin, c'est pas toi, par rapport à ton attitude. Et puis, ça m'a pris six jours, vous voyez, comme quoi, moi je reste devant mes cochons avec les caroubes pendant un bon bout de temps avant de me dire, bah, c'est à toi de bouger, de faire le chemin. Et j'ai pu le faire. Ouais, j'étais pas seul. Mais on a pu faire ce chemin-là parce que Dieu nous demandait de nous lever et de vivre cette vie de résurrection dans tous les domaines. Et lorsque les... Alors, j'ai trouvé ça intéressant aussi, quand les sacrificateurs donnent l'explication au roi, disant, voilà, bah, Michée, il a dit ça. Et ils ont cité, ils disent ici, dans l'évangile de Matthieu, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'as certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Ouais. Sauf que... Si vous retournez dans le livre de Michée, vous vous rendez compte qu'ils ont un tout petit peu adapté la citation du livre de Michée. Juste un petit peu sur les bordures. Lorsqu'ils disent « Et toi, Bethléem, terre de Juda ?» Mais en fait, Michée, il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata ?» Il ne parle pas de Juda. Après, il dit « petite entre les milliers de Juda ». Ils ont complètement enlevé Ephrata. Parce qu'il y a deux Bethléem. Vous avez Bethléem, Ephrata, là où est né le Christ. Et puis, vous avez une autre Bethléem qui est une Bethléem liée à la mort de Rachel, à quelques kilomètres de distance. Mais là, il est parlé de « et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira ». Bethléem, Ephrata, c'est intéressant. Vous savez ce que ça veut dire ? Bethléem, c'est la maison du pain. Moi, je trouve ça génial. C'est la ville de naissance de David. La maison du pain. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Christ est né dans la maison du pain. Hein? Mais Ephrata, ça veut dire lieu de fécondité. Lieu. Et l'enlever, ça. Quand ils ont répondu, ce que rapporte Matthieu, c'est on enlève la notion de fécondité. Or, Bethléem, Ephrata, c'est maison du pain qui est une maison de fécondité, là où naît la vie. Et la révélation qui s'impose à Hérode et aux religieux, c'est que Bethléem est véritablement le lieu de la fécondité. J'en reviens, c'est le lieu où la vie naît pour l'éternité, pour tous ceux qui portent le regard et leur pas vers Christ. Mais nous, on restera à Jérusalem. On ne bougera pas. Même si Dieu, que nous connaissons, même si nous sommes sauvés, et que Dieu nous dit, mais va là. Non, non, moi je veux rester ici, je suis tranquille, c'est bien. Je ne ferai pas ce chemin. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des petites transformations. Ils sont centrés sur Juda. C'est normal, parce que Jérusalem et Bethléem, c'est le royaume de Juda. C'est là aussi, à Jérusalem, où règne Hérode. On met plutôt en avant la terre de Juda et le rôle royal d'Hérode qu'autre chose. Alors, Hérode, contrairement au chef religieux, il va réagir. Il convoque les mages en secret, latra, en secret, en cachette. Vous savez, c'est... la même chose au chapitre précédent où Joseph, envisageant de répudier Marie parce qu'elle est enceinte, la voit en secret. Ben là, les mages sont convoqués en secret, mais en secret parce qu'il ne veut pas faire de publicité et surtout que son plan, c'est d'empêcher cet enfant de manifester une quelconque droit de royauté sur Israël. Il n'a rien compris. Hérode, historiquement, c'est un souverain usurpateur qui est inquiet et cruel. Et c'est quelqu'un qui va finalement perdre tout. Mais il est dans cette attitude comme Pharaon a pu l'être au temps de Moïse. Alors, il dit qu'il veut aller l'adorer. Mais en fait, c'est une manière de dire « Donnez-moi les renseignements dont j'ai besoin pour pouvoir mettre la main sur lui ». Au verset 11, 9 et 11, il y a cette démarche où les mages poursuivent leur route. Et plutôt que d'obéir, ils vont continuer leur route. On a l'impression que finalement, ils font aussi leur route sur la base des informations que leur donne Hérode. Mais, en fait, quand on lit attentivement, ce n'est pas les informations d'Hérode qui leur servent, c'est l'étoile. Ils sortent et quelque part, l'étoile est là. Alors on se dit, mais il y a un moment donné où ils ont perdu l'étoile. Ils ont perdu le nord. Hein, et ils sont allés à Jérusalem. parce que ce sont des hommes intelligents, parce que ce sont des savants, et qu'à un moment donné, ils sont partis de l'Orient sur la base de la foi. C'est un évêque anglican qui, à la fin du 19e siècle, dit que ce sont des hommes de foi parce qu'ils sont partis sans le voir, sur la base d'une étoile. Ils ont poursuivi leur voyage, non pas sur la base de la parole d'Hérode, mais sur cette étoile qu'ils ont revue, et ils ont adoré alors qu'ils ne l'ont vu faire aucun miracle, rien. Mais ils ont reconnu de cet enfant le Fils de Dieu. C'est de la foi. Mais la marche avec la foi n'empêche pas des moments de silence, des moments où on se dit, mais est-ce que c'est la bonne direction ? Et ce sont des savants, c'est-à-dire des hommes qui savent réfléchir et raisonner. Je disais à Huguette, lorsque on faisait cette méditation sur les mages, je disais, moi, la première fois que Michel m'a appelé en disant, Jean-Marc, on a la conviction que tu dois venir en Bretagne. Il a dû être convaincant, hein. 40 ans après, je suis toujours là. Alors, et puis moi, j'avais prié Dieu, j'avais dit, mais Seigneur, oui, là, je termine mon stage pastoral, donne-moi une direction pour aller te servir. Et quelques jours après, Michel m'appelle en me disant ben, « Le pasteur de Bretagne, moi, on a vraiment la conviction que tu dois venir. » Je dis « Mais ça colle. » Et donc, comme les mages, j'ai pris ma deux chevaux et je suis parti vers ma Bethléem à moi, l'Orient. Et comme les mages, je suis allé à Paris, depuis la Normandie, pour aller en Bretagne. Pour moi, ça me semblait logique. Je dirais, tous les trains passent par Paris pour aller dans une ville de France. Donc j'ai pris ma deux chevaux, j'ai pris l'autoroute, et c'est arrivé à peu près à quelques kilomètres de Rouen. Tout à coup, je me dis, attends, si tu te rappelles la carte de France, on est en Normandie, Paris est là, et la Bretagne est en dessous. Est-ce qu'il faut vraiment passer par Paris ? Oui, oui. J'ai une capacité à me perdre qui est assez phénoménal. Mais les mages, à un moment donné, ont eu aussi ce réflexe. Ben, pour aller à Bethléem, on va aller à Jérusalem. Et frères et sœurs, j'ai envie de dire, parfois, quand notre raison et notre intelligence commencent à supplanter notre foi, prenons garde. Prenons garde. Je vais m'arrêter là, sur ce point, entre l'articulation entre la sagesse humaine et la révélation divine, quand les mages se mettent en marche sur la base d'une révélation miraculeuse et que leur fonction, leur science de mage les prédisposait à découvrir cela, eh bien, ils arrivent à Jérusalem et tout à coup, bah, ils perdent l'objectif de la foi. Puissions-nous, pendant ces fêtes de Noël, nous inspirer de cette marche, de cette démarche, de cette recherche. Où est le Fils de Dieu qui est né. Seigneur, nous voulons véritablement avoir des yeux ouverts, te chercher, parce que tu es l'essentiel. Celui qui répond à la soif de notre cœur, mais aussi au-delà. Notre salut est en toi. Et quand nous avons lu ce poème alsacien, pour qui ? Pourquoi ? Nous savons aujourd'hui, nous, et la foi et l'Esprit Saint disent, parce que tu es aimé de Dieu et que son amour souhaite que tu sois sauvé, racheté au prix du Fils. Alors Seigneur, donne-nous dans ces temps de festivité de ne pas perdre de vue le sens de celui que tu es, le sens de ce que tu fais pour ceux que tu aimes, pour chaque homme et chaque femme. Donne-nous de nous mettre en marche. Donne-nous de faire en sorte que notre raison, notre intelligence, ne supplante pas la foi que tu déposes en nous. Amen.